Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on se penche d'ores et déjà sur la Ligue des Champions qui reprend mardi et mercredi avec notre premier sujet. Et si la campagne de Kylian Mbappé était en demi-teinte, on évoquera la question avec Elton Mokolo, notre spécialiste de la Ligue 1. On ira ensuite en Espagne pour parler de Carlo Ancelotti. Va-t-il vraiment quitter le Real Madrid comme cela a été prévu? On verra tout ça avec Anna Caro. On ira ensuite en Angleterre parler d'Unai Emery, l'épatant Aston Villa qui est désormais quatrième de Première Ligue. Mais quel est le secret de ces Villains? On posera la question à Philippe Auclair. Et on terminera enfin avec le débrief de Inter-Juventus. Guillaume Maher-Pacini nous parlera de la résurrection d'une vieille dame. Vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver toutes les semaines sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous tapez Eurosport FC, vous retrouvez l'émission ainsi que le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments de cette émission qui démarre maintenant. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec la Ligue 1, Elton Mokolo. Comment ça va, Elton ?
Bonjour Cyril, je vais bien parce que là on arrive sur les choses entre guillemets sérieuses en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue Europa et en Conférence Ligue dans le cas de Lille. Donc c'est une semaine qui est très intéressante. Pour revenir sur la Ligue 1, c'est vrai que c'est un week-end, on aurait pu attendre un peu mieux, on aurait pu attendre un peu plus d'éclat. On va quand même s'en satisfaire.
Ouais, c'est un petit peu le même refrain chaque semaine. On va commencer par la fin et par l'Olympique Lyonnais qui, là aussi, chaque semaine, on a l'impression de se répéter, mais qui s'enlise un peu plus dans la crise. La victoire à Rennes a été suivie ce dimanche par une défaite à domicile face à Lille, 0-2. Et on n'a pas trop compris où voulait en venir Fabio Grosso. Beaucoup de changements de système, beaucoup de coaching un petit peu illisible. Lui assure qu'il sait où il va. Est-ce que c'est l'impression qu'il t'a donnée dimanche soir?
C'est vrai que quand on regarde la prestation fournie par Fabio Grosso dans sa capacité à apporter quelque chose de positif à son équipe, on s'y perd parce que moi, j'ai voulu être compréhensif, notamment par rapport au fait qu'il tâtonnait sur les premiers matchs, qu'il cherchait la bonne formule. Mais à un moment donné, il faut de la consistance. Et la consistance, ça passe par quoi? Ça passe par avoir des schémas bien précis, ouais. Une équipe qui se dégage. Bon, après, c'est vrai que dans le cas de l'Olympique Lyonnais, c'est un peu difficile parce que quand tu es dernier du championnat, et ben forcément, tu ne peux pas capitaliser sur des points forts. Mais toujours est-il que moi, je n'ai toujours pas compris cette idée de changer quasiment un tiers de l'équipe du 11 à la mi-temps. Tu as quand même trois changements avec notamment Alexandre Lacazette. Ouais. Donc moi, je m'y perds quand on parle de Fabio Grosso parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de hiérarchie qui se dégage. C'est peut-être la faute des joueurs, bien évidemment. On ne peut pas dire que l'entraîneur apporte énormément de solutions au moment justement de fidéliser, de capitaliser sur un élément concret, à savoir une colonne vertébrale. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Ouais. Les joueurs sont responsables, Fabio Grosso aussi est responsable.
Est-ce qu'il y a le risque, à tes yeux, qu'il soit démis de ses fonctions, peut-être au moment de la trêve? Parce que comptablement, ça devient très dangereux pour Lyon, ça l'était déjà, mais chaque semaine, ça l'est encore un peu plus. Et comme tu le dis, on ne voit pas de progrès notable dans cette équipe. Est-ce que c'est encore l'homme de la situation? Et sinon, vers quel type de profil pourrait se tourner Lyon pour sortir de cette impasse-là, quoi?
Aujourd'hui, c'est un risque qui est concret, à savoir Fabio Grosso limogé d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Déjà pour une thématique simple, la thématique des résultats. Ouais. Les résultats ne sont pas bons, Lyon n'a remporté qu'un match. Et ensuite, par rapport à la crédibilité, par rapport au vestiaire, parce que je ne peux pas croire que les joueurs acceptent le fait d'être remplacés à la mi-temps de manière régulière, ouais. Et de voir que, en gros, les solutions ne marchent pas. Donc forcément, c'est un jeu qui est très périlleux par rapport à un vestiaire. On sait qu'il y a beaucoup d'ego, combien même tes derniers de Ligue 1. Donc forcément, quand tu allies ces deux éléments, eh ben, ça ne plaît pas en la faveur de la continuité de Fabio Grosso. Quant à savoir quel entraîneur pourrait arriver, on parlerait déjà d'un troisième entraîneur potentiellement. On se dirigerait davantage vers un pompier
Ouais.
dans la mesure où il faut se sauver et que c'est la seule et unique perspective pour l'Olympique Lyonnais. Et maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je pense que ça peut être une affaire de quelques jours et de quelques semaines si ça continue comme ça, parce que l'Olympique Lyonnais a besoin de résultats.
Ouais.
La victoire contre Rennes ne suffit pas, clairement.
On a parlé de l'indigence lyonnaise qui a conclu ce week-end de Ligue 1. On va revenir sur l'enthousiasme parisien qui a ouvert le bal vendredi. Une magnifique victoire face à Monaco et Paris qui se présente ce mardi au Parc des Princes face à Newcastle qui avait causé bien des tourments aux Parisiens lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Ma première question, elle est très générale. On voit la situation parisienne au classement dans cette Ligue des Champions. La victoire, elle est obligatoire à domicile face à Newcastle ce mardi.
Oui, elle est obligatoire parce que déjà on est sur un match qui est quasiment éliminatoire. Je fais davantage référence à Newcastle qui n'a toujours pas gagné un match à l'extérieur. On dira c'est le
Ouais.
même cas pour le PSG. Mais quand on regarde cette poule de la mort, on voit que les équipes ont surtout fait les écarts à domicile. Et la seule équipe qui l'emporte à l'extérieur, eh ben, les leaders, c'est l'équipe leader, c'est le Borussia Dortmund.
Ouais.
Pour revenir sur le PSG, évidemment, c'est une victoire qui est très importante parce que tu as grillé ton dernier joker à San Siro lors de cette défaite face à l'AC Milan. Et avoir un résultat négatif face à Newcastle, qui a maintenant un adversaire direct, ce serait très problématique avant d'aller jouer au Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park, avec tout ce que ça peut représenter quand on connaît les difficultés parisiennes à l'extérieur. Donc évidemment, c'est une victoire qui est obligatoire.
Il y a un homme qu'on aimerait évoquer, Elton, on va faire dans l'originalité, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi lui? Parce que pour l'instant, on sent que sa campagne européenne est un petit peu en demi-teinte. On vous affiche à l'écran ses stats, donc c'est 4 matchs, 2 buts, il y a un pénalty face à Dortmund et un but, c'est un peu sa spéciale face à l'AC Milan. Mais on vous a mis surtout la moyenne des notes sur Eurosport.fr qu'on a donnée à Kylian Mbappé sur ses 4 premiers matchs, elle est à 5,1, donc il a tout juste la moyenne. Il y a des pics de performance, c'était plutôt bon face à Dortmund, c'était très bon face à l'AC Milan au Parc, ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué à l'extérieur et face à Newcastle et face à Milan. Jusqu'à présent, comment tu juges la campagne européenne à Mbappé?
J'attends beaucoup plus de Kylian Mbappé sur cette phase de poule parce que quand on regarde les deux dernières campagnes précédentes, on avait un Kylian Mbappé qui était beaucoup plus souverain
Ouais.
et dans des configurations quasiment similaires. Je veux dire, la saison 2021-2022, tu étais dans la poule de la mort. Il avait une impression beaucoup plus positive lors de sa rencontre face à Manchester City, lors de son très bon match face à Leipzig au match aller. Rebelote sur la saison dernière où tu avais une impression beaucoup plus positive lors de son match face à la Juve à domicile avec son exceptionnel
Ouais.
but face au Maccabi Haïfa. Là, cette saison, on est sur un Kylian Mbappé qui est beaucoup moins souverain et ça se ressent sur la feuille de route du PSG. Deux buts quand on sait que Kylian Mbappé l'année dernière, bon, la poule n'est pas terminée,
Ouais.
avait terminé avec 8 buts. Là, on est quand même un peu en retard, même beaucoup en retard sur le tableau de marche et ça pose question. Quand on sait que le PSG n'est absolument pas assuré d'aller en huitième de finale, on a besoin clairement du côté du PSG de la meilleure version de Kylian Mbappé. Et là, on a un Kylian Mbappé qui est beaucoup plus discret. Cyril, tu l'as évoqué, le fait qu'il mette seulement un but dans le jeu, un très beau
Ouais.
but au demeurant, ça pose quand même question quant à la performance de Kylian Mbappé sur cette phase de Ligue des Champions.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est justement le contenu de ces matchs parce que on l'a vu et tu l'as dit, les stats sont moins bonnes, mais dans le contenu aussi, ça a été problématique. Et à Milan et à Newcastle, au-delà des buts, on n'a pas vu grand-chose de sa part et systématiquement, on a eu le débat sur son utilisation et son nouveau rôle au Paris Saint-Germain. Là aussi, on a des stats de passes décisives qui sont en nette régression par rapport à la saison passée. Ce Kylian Mbappé, au-delà des buts, doit faire beaucoup, beaucoup plus dans le jeu ou c'est simplement lié à l'animation parisienne qui lui réclame ça?
Mbappé l'avait évoqué face à Reims. Bon, il ne parlait pas de la Ligue des
Ouais.
Champions, à savoir qu'il devait conjuguer le fait, bien évidemment, d'être décisif, parce qu'il ne faut pas l'oublier, être décisif, c'est la chose la plus importante dans le football, apporter un contenu suffisamment qualitatif pour aider son équipe. Et on le voit en Ligue des Champions, c'est ce qui fait défaut. On a surtout un Kylian Mbappé qui est déconnecté, peu influent, pas intimidant par rapport à l'adversaire.
Ouais.
Et forcément, c'est une menace qui est moindre pour l'équipe adverse qui peut se concentrer sur les autres coéquipiers de Kylian Mbappé, alors qu'on sait que en général, les équipes arrivent avec un plan spécifique par rapport à Kylian Mbappé. On l'avait déjà vu à l'occasion du huitième de finale la saison dernière avec le Bayern. Donc on voit bien que Kylian Mbappé, notamment sur la thématique du contenu, doit faire beaucoup mieux quant à sa capacité à être intimidant. Ça passe par plus de courses, ça passe par plus de percussions et ça passe par plus d'actions concrètes dans le dernier tiers, ce qu'on n'a pas aujourd'hui.
Je vais revenir sur les buts parce que malgré tout, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de nos analyses, comme tu l'as expliqué. Au classement des meilleurs buteurs en C1, il est dans le top 20 désormais, Kylian Mbappé, avec 42 buts. Juste derrière lui, il y a un certain Erling Haaland qui n'est plus qu'à 3 buts et qui avance à un rythme beaucoup plus énervé que celui de Mbappé. Est-ce que ça aussi, ça doit compter dans la vision qu'a Kylian Mbappé de ses performances? On sait que c'est un joueur qui regarde beaucoup les statistiques, qui vise le ballon d'or à terme. Ça peut lui faire défaut d'être déjà absent dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, que ce soit en demi-finale, en finale ces dernières années, mais surtout de ne pas être impactant, statistiquement parlant, à la hauteur d'un Haaland, par exemple.
Aujourd'hui, Cyril, on est sur une saison charnière pour Kylian Mbappé. Maintenant, c'est de plein droit le leader du projet parisien à partir du moment où Lionel Messi et Neymar ont quitté le club. Donc, forcément, il y a plus de responsabilités pour reprendre l'un de ses mots favoris. Et donc, on l'attend beaucoup plus quant à sa capacité à être décisive. Et par effet de contraste, c'est Erling Haaland qui, lui, a déjà remporté la Ligue des Champions et qui continue d'afficher le même rendement. Donc, c'est vrai que quand tu regardes la comparaison, aujourd'hui, la comparaison en ce qui concerne la Ligue des Champions n'est pas bonne. Et ça se répercute, bien évidemment, sur le classement du Ballon d'Or, où Erling Haaland, pour la première fois, est passé devant Kylian Mbappé. Et passé de la meilleure des manières, puisqu'il a terminé deuxième du Ballon d'Or. Ce qui offre une meilleure considération auprès du public, des journalistes, des votants qui ont justement placé Erling Haaland à la deuxième place, tandis qu'ils ont placé Kylian Mbappé par rapport à ses performances en équipe de France, pas forcément par rapport à ses performances avec le PSG en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que Kylian Mbappé, qui a comme challenge le fait de remporter le Ballon d'Or, doit être sensible à ça, et ça passe par des performances qui soient beaucoup plus abouties en Ligue des Champions dès la phase de poule. Parce que encore une fois, si le PSG ne passe pas la phase de
Ah oui,
poule,
ça va être très
et ben,
compliqué.
ça peut être très compliqué. Un, dans la perspective de la Ligue des Champions, deux, notamment dans l'image qu'on se fait du PSG en Coupe d'Europe, et trois, par rapport au challenge personnel de Kylian Mbappé.
On va passer à l'autre club français, Elton, aligné dans cette Ligue des Champions. C'est le RC Lens qui a un déplacement périlleux qui l'attend mercredi, puisqu'il se déplace sur la pelouse du leader de première ligue, à savoir Arsenal. On se souvient de ce match aller incroyable à Bollaert. Avant le début de la compétition, tu nous avais dit, Elton, que tu voyais bien ce Lens faire comme l'Atalanta en 2020, à savoir être un peu l'équipe surprise et l'équipe frisson de cette Ligue des Champions. Est-ce que, à 2 journées de la fin de cette phase de poule, tu maintiens?
Oui, je le maintiens, d'autant plus que Lens est toujours positionné mathématiquement pour être qualifié. Je le maintiens parce que il y a cette déception par rapport au match au PSV Eindhoven où, au-delà de la défaite, j'ai eu le sentiment que Lens a été naïf dans son approche du match, chose auxquelles on n'était pas forcément habitué. Et là arrive le déplacement du côté de l'Emirates, ce qui fait que c'est un déplacement qui est très très important, même si on est chez l'épouvantail de la poule. Et ensuite, il y aura ce dernier match. Bah, moi, c'était mon scénario face à Séville, où tu vas jouer ta qualification. Donc, par rapport à ce que j'avais dit à l'occasion du tirage au sort, Lens est totalement dans cette idée de refaire un parcours similaire à l'Atalanta. Peut-être pas jusqu'en quart de finale, mais on comprend l'idée, à savoir une équipe qui n'était pas programmée pour sortir des poules et qui maintenant est en position de l'être.
Il y a un joueur qui cristallise un petit peu tous les regards du côté de Lens, parce que c'est celui qui a marqué le plus de buts de Lens en Ligue des Champions cette saison, c'est Elly Wahi. Il a marqué ce week-end encore à Clermont avant d'être expulsé. Est-ce que voilà, enfin, on le sent bien, c'est pas un produit fini en fait, Elly Wahi. Ça s'est encore ressenti ce week-end. Est-ce que toi, tu es frustré par rapport à son intégration depuis le début de saison au projet lensois?
Et Cyril, tu l'as évoqué, tout est résumé dans le match d'Eli Wahi à Clermont. Il marque, mais il est expulsé. C'est que Eli Wahi, quand je pense à lui, il n'y a pas d'excellence sans exigence. Et je pense que Francaise et ses coéquipiers, notamment Thomasson au micro de
Tout à
RMC,
fait.
l'ont suffisamment répété pour expliquer que Eli Wahi, évidemment, il a des qualités qui sont incontestables. Il faut beaucoup plus de consistance, beaucoup plus de régularité, qu'il soit beaucoup plus connecté au jeu. Et ça, c'est une problématique. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a de belles choses qu'on a davantage vues en Ligue des Champions plutôt qu'en Ligue 1. du côté d'Eli Wahi. Et moi, j'attends beaucoup plus parce que moi, je pensais que Eli Wahi et les RC Lens, c'était un mariage qui était naturel.
Ouais.
Et encore une fois, il va falloir qu'il fasse un peu mieux, même si encore une fois, ce n'est pas non plus catastrophique. Attention, là n'est pas le
Bien
propos
sûr.
parce qu'il nous a quand même montré de bonnes choses. Mais dans l'idée qu'il soit le successeur naturel d'Openda, on attend beaucoup plus d'Eli Wahi. Et là, il y a un match très important à l'extérieur où il n'a toujours pas marqué en version Ligue des Champions pour Eli Wahi. Mais c'est vrai que par rapport à l'affinité technique, par rapport à ses coéquipiers, à être un joueur beaucoup plus mûr, mais après, il faut quand même contextualiser, ça reste qu'en 2003, et
Bien
bien Eli
sûr.
Wahi doit faire mieux.
Est-ce que moi j'ai l'impression il y a aussi un petit décalage, est-ce que c'est ce que pointait Thomasson dans le body language pour reprendre une expression anglaise. Voilà, on a des joueurs qui sont habités. Je prends l'exemple de Medina, de Danso, de Gradit. Et à l'avant, on a parfois un Eli Wahi déconnecté, tu l'as dit, désintéressé, beaucoup moins féroce en fait que ce RC Lens. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose, c'est presque le principal axe d'amélioration pour lui?
C'est un bon parallèle parce que c'est vrai qu'on est au RC Lens et que l'engagement n'est pas
Ouais.
négociable. Et donc tu le vois avec des joueurs que tu as évoqués, Medina, Danso, Gradit, et tu vois par effet de contraste, vous voyez, qui est dans son style au final, mais un style où il va falloir qu'il évolue. Et ça, c'est un processus qui pour moi est normal au moment justement de deviner le potentiel du joueur. Et je pense que lorsqu'ils le recrutent, ils savent qu'il y aurait eu. Il y avait un travail à faire, notamment sur cette capacité à rendre beaucoup plus soluble Eli Wahi dans le collectif lensois. Mais c'est vrai qu'au niveau du body language, oui, il doit faire plus.
Eh ben merci beaucoup Elton pour ces lumières sur notre Ligue 1. On suivra attentivement les résultats des clubs français en Coupe d'Europe cette semaine parce que c'est une semaine qui pourrait être décisive pour le coefficient UEFA. On te dit merci Elton, à la semaine prochaine et nous, on va partir pour l'Espagne. On atterrit donc en Espagne, on retrouve Anna Caro, notre spécialiste de la Liga. Comment ça va, Anna?
Ça va très bien et toi?
Bah écoute, ça va, tranquillement. J'ai cru comprendre, on parlait de la Ligue 1 juste avant avec Elton, j'ai cru comprendre qu'il y a eu un entraîneur qui a débuté sa saison en Liga, mais qui l'a poursuivi plutôt bien en Liga. C'était les débuts de Marcelino avec Villarreal et une victoire 3-1 contre Osasuna. C'est quoi l'histoire autour de Marcelino?
Alors c'était les débuts en Liga parce
Ouais.
qu'il a déjà joué en Coupe du Roi cette semaine. Ça s'est pas très bien passé. Hein.
Ok.
C'était contre Zamora qui a ouvert le score début de match. Donc Zamora, le club des quatre.
Ah oui,
Et
ok.
sauf que là c'est l'homme fort de Marcelino depuis qu'il est arrivé, José Luis Morales, qui a déjà marqué un triplé
Ouais.
hier, qui marque le but à la 88e contre Zamora pour égaliser, aller chercher les prolongations et finalement gagner. Ça aurait pu très très mal démarrer hein, quand même pour
Ouais.
Marcelino parce qu'une défaite en Coupe du Roi, une élimination en plus, c'était un match qui était rattrapé parce qu'il avait été décalé en raison de la météo. Et on a cette victoire contre Osasuna. On est loin encore
Bien
de
sûr.
ce que veut faire Marcelino, en tout cas de ce qu'on a connu de Marcelino en Liga, que ce soit du côté de Valence ou du côté de Villarreal, puisqu'il revient à Villarreal. Mais en tout cas, on voit qu'il a réussi à remettre en confiance des joueurs qui n'étaient pas forcément sur le début de saison. Le contexte à Villarreal, il est un peu compliqué. Hein.
Ouais,
Ils ont
ouais.
changé beaucoup de coach, beaucoup de fois de coach. Il y a Lianessa, qui est le président d'honneur, qui est décédé récemment et qui, du coup, a totalement changé. Enfin, ça a fait un vrai bouleversement au sein de l'organisation, au sein des joueurs aussi, qui étaient très attachés à ce président. Et on a Marcelino qui revient.
Est-ce que son image, elle a été entachée par son passage à l'OM ou pas du tout?
Alors en Espagne, pas du
Ouais,
tout.
on n'en parle pas.
En
Ok.
Espagne, pas du tout, parce qu'en plus, en Espagne, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé
Avec les
avec les
supporters, ouais.
supporters, avec les dirigeants,
Ok.
etc. Et on retient plutôt ça, on retient que c'est un club qui est assez instable,
Ouais.
et alors qu'à l'inverse, globalement, Villarreal est un club plutôt stable, en tout cas du côté de sa direction, du côté de ses entraîneurs, pas trop. Mais voilà, c'est un Villarreal assez convaincant contre Osasuna, qui a eu très peu d'occasions, mais qui a marqué
Ouais.
systématiquement avec ce triplé de José Luis Morales. Donc, c'est des débuts satisfaisants à voir pour la suite. Mais il faut savoir que Villarreal a gagné très très peu de matchs depuis ce début de saison en Liga
Ok,
et que
ça
c'est une
fait forcément
victoire
du
qui
bien.
est
Ouais.
importante.
On va parler du leader de la Liga, le Real Madrid. Pourquoi on a choisi de parler du Real? Parce que finalement, Carlo Ancelotti n'est pas encore parti. Ça fait de longs mois désormais que son nom est lié à la sélection brésilienne. Finalement, c'est Diniz qui a été choisi pour la sélection. A priori, on pensait que ce serait pour un intérim jusqu'à l'arrivée de Carlo Ancelotti, mais les choses ne sont plus si claires que ça. Interrogé avant le match face à Cadiz en conférence de presse, il a dit « Mon avenir, point d'interrogation, je vais attendre le Real Madrid jusqu'au dernier jour. » Est-ce que tu peux nous décrypter déjà peut-être cette réponse ?
Oui, alors cette réponse, elle vient dans un contexte un peu particulier parce que début de semaine passée, José Mourinho a été interrogé justement sur l'avenir d'Ancelotti, sur s'il pensait que Ancelotti devait continuer au Real Madrid ou pas. Et lui, il a répondu « Quand le Real Madrid te veut, il faut être totalement fou pour quitter le club.
Okay. »
Et il dit « Il n'y a qu'un seul fou qui a fait ça, c'est moi. » Voilà. c'est un peu fou parce qu'il y a Zidane quand même. Mais bon.
Mais Zidane, il n'est pas fou, c'est pour ça.
Zidane, il n'est pas fou. Et donc, Ancelotti a été interrogé en conférence de presse sur ça pour dire « Est-ce que, entre guillemets, vous êtes fou et vous allez quitter le Real Madrid alors que le Real Madrid vous veut ?» Et lui, il a dit « Non, il a répondu. » En gros, la question a été formulée « Est-ce que vous allez attendre le Real Madrid jusqu'au bout s'il vous veut ?» Et il a dit « Oui, évidemment. » Donc, c'est une question un peu alambiquée qui revient sur cette déclaration de José Mourinho. Alors après, ce que dit la presse madrilène, c'est que peut-être que le Real Madrid le veut, peut-être que José Mourinho a très envie que Ancelotti continue au Real Madrid. Pour l'instant, il n'y aurait pas d'offre de prolongation du contrat de Carlo Ancelotti qui arrive à expiration à la fin de la saison. Donc ça va sans doute dépendre beaucoup des résultats parce que la saison passée, le Real n'a gagné ni la Liga ni la Ligue des Champions. Donc il y a sans doute aussi des attentes à ce niveau-là. Et malheureusement, ça risque d'être compliqué pour Ancelotti parce qu'il a énormément de blessés cette saison.
Moi, j'ai une question, c'est comment le vent a-t-il pu tourner autant ? C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, c'est pas que c'était officiel, mais c'était acté, on avait envie de dire. Là, tu nous dis que finalement, les choses sont un peu plus dans l'air. Que si le Real venait à gagner la Liga, bah peut-être que Carlo Ancelotti pourrait rester. Comment ça a tourné et comment le vent a tourné en faveur d'Ancelotti ?
En fait, il y a toujours eu deux parties et deux échos différents. Du côté de la fédération brésilienne, on a toujours dit que c'était bon, c'était signé. Ouais. Même le président de la fédération lui-même a dit que c'était OK, Ancelotti arriverait à l'issue de son contrat au Real Madrid. Et lui, Ancelotti, il n'a jamais rien confirmé. Il a toujours dit « Moi, je vais aller au bout de mon contrat au Real Madrid, point ». Et il n'a jamais dit « j'irai au Brésil » ou « j'irai pas », etc. Okay. Il a toujours gardé ce cap de dire « moi, je vais aller au bout de mon contrat ». Et d'ailleurs, quand on le réinterroge même encore aujourd'hui, alors que la fin de contrat arrive là, à l'issue de la saison, il reste sur cette idée de « j'irai au bout de mon contrat ». Et maintenant, en plus, il y a une sorte d'appel du pied au Real Madrid de lui dire « si vous me proposez une prolongation, moi, j'y vais
okay. ».
Donc, c'est beaucoup moins clair que laisse penser la fédération brésilienne. Je pense que la fédération brésilienne a aussi un peu envie de faire pression sur Carlo Ancelotti, parce que si on voit les derniers résultats du Brésil en qualification Coupe du Monde, c'est quand même deux défaites là, lors de la dernière trêve. Donc je pense que c'est un peu un jeu comme ça. Et d'un côté, Ancelotti, en gardant ce cap-là aussi, de dire « moi, je suis sous contrat avec le Real Madrid, point », il se garde l'opportunité peut-être de prolonger au Real sans avoir de fiasco ni quoi que ce soit, en disant « moi, j'ai toujours été droit dans mes bottes ». Et voilà.
Politiquement, c'est plutôt très habile. Il y a un homme qui sera au cœur de toutes ces discussions, c'est Florentino Pérez. Alors, on l'a dit, peut-être aussi que ce qu'a permis Ancelotti cette saison, à savoir de partir sur une saison avec quasiment aucun avant-centre, mais réinventer un petit peu ce Real Madrid, joue en sa faveur. Mais est-ce qu'on connaît la position de Florentino Pérez sur cette question-là ?
Et Florentino Pérez ne s'est jamais exprimé là-dessus. Okay. Parce que justement, Carlo Ancelotti, lui, aimerait bien, c'est ce que dit la presse madrilène, il aimerait bien avoir le soutien de Florentino Pérez dans toutes ces questions qu'on lui pose quasiment chaque conférence de presse pour savoir si, oui ou non, il irait au Brésil. Et à aucun moment, Florentino Pérez a dit « Ah non, Carlo Ancelotti, il va rester avec nous ». À aucun moment. Et donc, pour l'instant, je pense que Florentino Pérez attend de voir justement ces fameux résultats à l'issue de la saison, même si j'imagine qu'il est tout autant conscient des manques qu'il y a au sein de l'effectif. Mais c'est un peu une année de test, entre guillemets. Et on n'a aucun son de cloche de la part de Florentino Pérez. On sait juste qu'il n'y a pas de prolongation. Et voilà.
On imagine que le vestiaire, et notamment c'était ce qui est évoqué au moment de la rumeur brésilienne, c'est que les Brésiliens du Real aimeraient beaucoup avoir Ancelotti sur le banc. On sait que le vestiaire, et ça a toujours été le cas avec Ancelotti, est plutôt derrière son entraîneur, c'est quelqu'un de très apprécié. Malgré tout, quand on voit les noms qui sont évoqués pour le remplacer, il y a Xavi Alonso qui est à la tête d'une des équipes les plus alléchantes d'Europe cette saison. Tout à fait. Il y a Raoul, qui on n'a plus besoin de le présenter. Nagelsmann potentiellement, qui est avec la Mannschaft jusqu'à l'Euro. Zinedine Zidane qui revient aussi régulièrement, voire De Zerbi. Il n'y a pas une volonté de changement. Pourquoi il n'y a pas une volonté de changement de se dire, bon, bah là, c'est vrai que ça pourrait être quand même faire rentrer le Real dans la modernité avec ces profils-là qui sont quand même très attrayants.
Bah, si on a tous ces noms qui fuitent un peu à droite à gauche, c'est parce que le Real Madrid commence à chercher aussi un successeur d'Ancelotti. Et dans la mesure où il n'y a pas de prolongation, on peut s'imaginer qu'un de ces noms-là sera sur le banc la saison prochaine. Donc,
Il y a un favori dans tous ces noms ? Xabi Alonso peut-être ?
Je pense que Xabi Alonso là est bien parti parce que son nom était déjà évoqué l'année dernière quand Ancelotti allait peut-être rejoindre la sélection brésilienne. Vu les performances qu'il a cette saison avec le Bayern, c'est difficile de passer outre. Ouais. Et surtout, on a eu la déclaration du président du Bayern Leverkusen qui dit, entre guillemets, on s'entend bien avec Xabi. S'il a envie de partir au Real, il ne le dit pas comme ça, mais on peut trouver un terrain d'entente. Parce que si jamais il ramène le titre au Bayern Leverkusen, s'il part là-dessus, je pense que personne ne lui en voudra du côté de Leverkusen. Je pense que Xabi Alonso est bien parti. Et il y a Raoul aussi, parce que Raoul, son nom avait été évoqué pour le banc de Villarreal, avant que Marcelino y aille. Et c'est lui qui a voulu rester au Real Madrid pour rester dans les parages, on va dire. Donc lui, il a sans doute plus d'informations que nous sur la succession de Carlo Ancelotti, vu qu'il est tous les jours au sein du Real Madrid. Mais lui, je pense qu'il aimerait bien aussi pouvoir prendre la tête du Real à la saison prochaine. On verra. Parce que pour l'instant, je pense qu'il était favori l'année dernière. Et il n'est plus trop doubler cette saison.
Il s'est fait doubler. Dernier petit mot peut-être sur un nom qui, comme français, nous intéresse au plus haut lieu. Zinedine Zidane, c'est un peu la chimère qui revient à chaque fois. Est-ce qu'il faut croire encore à un énième retour de Zizou ou ni lui ni le club n'auraient envie de se pencher là-dessus ?
Je ne suis pas sûre qu'un retour de Zidane se fasse dans le cadre d'un poste d'entraîneur, en tout cas au Real Madrid. Il avait fait part de beaucoup de fatigue à l'issue de son deuxième passage au Real. Ça reste un club qui est toujours très difficile à diriger, avec énormément de pression, beaucoup de médias, un environnement pas forcément très sain. J'imagine que s'il est parti, c'est qu'il y avait une bonne raison. On sait par contre que sa relation avec Florentino Pérez est excellente. Ouais. Le Real semble quand même tourner vers prendre un entraîneur plus moderne, parce que quand on voit les noms dans la liste, que ce soit Raoul, Xabi Alonso ou Roberto De Zerbi, c'est que des noms assez de coach assez modernes. Donc on peut imaginer que Zidane, qui est plus comme Ancelotti, dans la gestion du vestiaire, etc., ce sera sans doute plus un entraîneur jeune et pas forcément Zidane, même s'il n'est pas très vieux.
Merci beaucoup pour ce point sur Carlo Ancelotti. Nous, on va parler d'un ancien entraîneur de la Liga qui brille en Première Ligue. On s'envole pour l'Angleterre pour parler d'Unai Emery. On enchaîne avec l'Angleterre. Sir Philippe Auclair, pas encore, mais bientôt, on espère. Salut Philippe, comment ça va?
Ça va bien, je te remercie. Je ne sais pas s'il y a un salaire qui va avec le titre de sœur, je ne pense pas. C'est avec les Lords. Les Lords ont le droit à des défraiements quotidiens. Donc, souhaite-moi plutôt d'être élevé à la Chambre des Pairs.
D'accord. Voilà. Écoute, on surveillera ton ascension politique alors.
Merci, c'est très gentil à vous.
Philippe, on va commencer avec une triste nouvelle pour le football anglais. Oui. La disparition de Terry Venables, l'ancien sélectionneur des Three Lions. Mais tellement, il résume d'autres choses. Il a été notamment coach du FC Barcelone. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot peut-être ?
Oui, je peux vous en dire un petit mot. En plus de ça, je connaissais Terry pas très bien, mais je l'avais croisé assez souvent. J'avais déjeuné avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, après qu'il avait été diagnostiqué de cette terrible maladie. Et c'était un souffle d'air frais dans le football anglais, je dirais ça comme ça. Okay. Un entraîneur anglais qui avait renoué avec la tradition des grands entraîneurs anglais qui allaient porter la bonne parole en Espagne. On avait eu tellement dans les années 20, les années 30. Lui était arrivé à Barcelone, une équipe de Barcelone qui n'avait pas remporté la Liga depuis un bon bout de temps, qui avait perdu Maradona, au passage. Et pour remplacer Maradona, il fait venir Steve Archibald. Il y a Gary Lineker qui est là, et c'est une équipe qui devient championne d'Espagne. Bon, c'était magnifique. Et puis, bien évidemment, tout le monde se souvient de l'épopée de l'Angleterre à l'Euro 96. La fameuse victoire 4-1 contre les Pays-Bas, qui est un petit peu un symbole, je dirais, de cet entraîneur qui était très en avance sur ses contemporains anglais, en tout cas, qui avait beaucoup d'imagination, qui était à la fois quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur dans la façon dont il organisait ses équipes, mais aussi qui n'avait pas peur de faire appel à des joueurs à des joueurs un petit peu fantaisistes. Et c'est pour ça que le joueur auquel on l'associera toujours, c'est Paul Gascoigne, qui a été son joueur à Tottenham, qui a été son joueur avec l'équipe d'Angleterre, avec lequel il avait une relation tout à fait unique, parce que c'est quelqu'un qui avait un don de la communication. Que je peux en parler parce que je lui ai parlé, et c'était quelqu'un qui était tellement chaleureux. Et quelqu'un, en plus de ça, je te prends l'exemple de la fameuse défaite au tir au but contre l'Allemagne en 96. La première chose qu'il va faire, et à l'époque, crois-moi, ça fait un bout de temps, hein, ça fait 27 ans, les entraîneurs étaient durs. Lui, la première chose qu'il va faire, c'est aller consoler Gareth Southgate sur le terrain, qui a manqué le penalty. Et c'est du typique Venable, ça. Un sens du rapport humain qui était hors du commun. Et d'ailleurs, Terry était, je pense, l'une des plus grosses influences sur Gareth Southgate, l'actuel entraîneur des Three Lions. Donc, ça va bien au-delà du palmarès. Il y a des entraîneurs qui laissent des traces qui vont bien au-delà de cela. Il en fait partie. C'était un romantique du football. C'était aussi un excellent tacticien. C'était un footballeur en œuvre. Un très bon footballeur au passage. Mais un entraîneur en avance sur son temps, un entraîneur aussi décalé par rapport à ce que l'Angleterre attendait de ses sélectionneurs. Encore une fois, un vent d'air frais, puis ce vent est retombé, hélas. Donc maintenant, on célébrera sa mémoire.
On va parler désormais de la Première Ligue, Philippe, avec un petit tournant, ou pas d'ailleurs, ce week-end.
On va t'en savoir, hein.
Les Gunners qui sont les nouveaux leaders après cette victoire arrachée dans les dernières minutes grâce à un but de Kaya Wertz, on ne l'attendait plus.
Oui, tout arrive.
Et surtout, City qui a été tenu en échec à domicile par une équipe de Liverpool qui quand même a des arguments à faire valoir. Voilà, qu'est-ce qui se dit tout simplement en Angleterre sur cette passation de témoins? Est-ce qu'on l'imagine durable ou c'est bien, bien trop tôt pour tout ça?
Durable, non, je crois que ça va être à toi, à moi, ou plutôt à toi, à vous. Ouais. C'est parce qu'il y a un pluriel cette fois-ci, puisqu'on a quatre équipes qui tiennent en 3 points après 13 journées. Je dirais pas que c'est du jamais vu parce qu'on a... C'était ce qu'on voyait autrefois, mais on ne l'avait pas vu depuis un bon bout de temps. C'est confirmation de ce dont on a parlé déjà ensemble plusieurs fois, à savoir un espèce de tassement vers le haut, je dirais, avec une équipe de Liverpool qui retrouve les couleurs de l'équipe de Liverpool que l'on connaissait, championne d'Europe, championne d'Angleterre, avec un but absolument magnifique au passage de Trent Alexander-Arnold. La finition était assez incroyable et qui a montré beaucoup de résilience, comme on dit maintenant. Et une équipe de City qui est pas encore au top du top et qui l'a montré alors bien sûr on va parler de Erling Haaland, 50 buts après 48 matchs, nouveau record absolu au passage, précédent record Andy Cole, 50 buts en 65 matchs, ça donne une idée un petit peu de la dimension que Erling Haaland a déjà acquise. Au niveau du jeu, City, excellent dans la possession, de très beaux mouvements, mais une équipe également de Liverpool, très incisive, moi j'ai trouvé, sur ses contres, et qui a emporté un résultat peut-être un tout petit peu chanceux au vu de la physionomie du match, mais pas immérité, et qui du coup fait l'affaire des Gunners. Ouais. Et des Gunners qui, comme d'habitude depuis le début de la saison, ne sont pas totalement enthousiasmants. Moi, c'est une équipe qui fait plus penser à celle de George Graham qu'à celle d'Arsène Wenger en ce moment. Ouais. Parce que c'est, même si tu vois plein de joueurs offensifs, là, il y avait 5 joueurs offensifs alignés d'emblée, c'est peut-être moins brillant, moins rapide, moins imaginatif que ce qu'on avait vu la saison précédente, par exemple. Par contre, c'est super solide. Et alors là, mentalement, ils sont costauds. Ouais. Et là, ils l'ont encore prouvé. Et Kai Havertz, le joueur qu'on n'attendait plus ou qu'on attend toujours, et qui intervient pour remarquer le but de la victoire. Et donc, prendre la tête du classement de ce championnat d'Angleterre absolument passionnant.
Alors, il y a une équipe dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie de ce quatuor qui se tient en 2 points. C'est l'équipe d'Aston Villa d'Unai Emery. On en avait touché un mot la saison passée parce que Unai Emery, il a révolutionné les Villains depuis son arrivée. Mais là, c'est encore d'un autre niveau, j'ai envie de dire. C'est quoi le secret d'Unai Emery dans cette équipe d'Aston Villa?
Alors, son secret... Alors, c'est un secret, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est.
Oui, tout à fait.
Son secret, c'est comment fait-il pour que des joueurs qui sont d'un bon niveau de Première Ligue deviennent tout d'un coup des joueurs qui ont le niveau Champions League. Ouais. Parce que c'est ça qu'il a fait avec des joueurs comme Ollie Watkins, avec des joueurs comme John McGinn, qui est merveilleux de joueur, mais qui a complètement explosé, qui c'est plus le même joueur. Boubacar Camara, n'oublions pas. Hein,
ouais, tout à fait.
Notre Boubacar Camara, qui est titulaire à part entière dans le milieu de terrain de cette équipe d'Aston Villa. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue sans complexe. Là, ils étaient menés au score, c'est pas un problème. Ouais. On savait qu'ils étaient très costauds chez eux, on en avait déjà parlé. Tu sais, cette série de 13 victoires consécutives, série en cours à Villa Park. Et là, on les voit également faire le boulot. Bon, certes, une équipe de Tottenham diminuée par les blessures, les indisponibilités, tout ce qu'on voudra. Mais malgré tout, ils étaient menés au score. Ils sont revenus, ils ont gagné la partie grâce une fois encore à Ollie Watkins. Je crois tout simplement que c'est que tu dois saluer le travail de l'entraîneur et que je crois qu'on méjuge Unai Emery sur ces deux échecs très relatifs, parce que l'échec du PSG, il ne faut quand même pas oublier qu'il avait été entraîneur de l'année et l'avait mérité avec les Parisiens, et qu'en fait, si jamais les gens n'ont conservé un souvenir mitigé, c'est uniquement à cause de ce qui
Ouais,
s'était passé à Barcelone.
tout à
C'est
fait.
uniquement à cause de ça. Et qu'à côté de ça, il avait fait un super boulot. À Arsenal, n'oublions pas qu'il avait quand même amené Arsenal dans une finale européenne, ce qui est quelque chose que tout le monde a oublié. Et oui, et que ça, c'était ce qui s'était passé ensuite, c'était plus le résultat de ce qui se passait au-dessus, dans le
Ouais, bien
conseil
sûr.
d'administration, les investissements et tout ça. Et le vrai Unai Emery, c'est celui qu'on avait avec Villarreal, c'est celui qu'on avait avec Séville. Alors, Sevilla, le jeu de mots est facile, mais en fait, il est en train de faire un Séville bis avec
Ouais.
Aston Villa. C'est-à-dire qu'il prend une équipe qui est normalement, logiquement, du top 10, on est d'accord. Qui a ses chances pour figurer dans le top 6, donc
Ouais.
qualification pour l'Europe. Mais lui, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il va un cran plus loin. Il arrive à les mener un tout petit peu plus haut que ses joueurs. Alors, je vais prendre une expression footballistique qui n'a aucun sens. Ces joueurs vont donner 110%. Hein? C'est pas possible, mais ils vont donner 110%. Et d'un coup, tu as des joueurs qui vont retrouver leur football. Youri Tillmans, par exemple, qu'on avait un peu perdu de vue, dont on se
Ouais.
demandait s'il aimait encore jouer au foot, bah, tout d'un coup, le revoilà, qui ressemble au Youri Tillmans qui nous avait tellement plu à Leicester. Et on peut continuer comme ça dans toutes les lignes. C'est super solide au passage, parce que ça va à Demi Martinez, Ollie Watkins, hein,
Ouais,
c'est
tout à
du
fait.
sérieux. Hein.
Ouais. Il y a Lucas
Et
Digne
tu te
aussi,
rends compte que tu as
ouais.
des joueurs qui ont complètement qui adhèrent au projet, qui aiment jouer pour Unai Emery. Il y a en plus de ça une connexion avec le public de Villa Park qui est incroyable, avec les supporters des Villans qui est absolument incroyable. Et j'ajouterais à ça que bon, tu pourrais en parler peut-être avec Anna, mais c'est quelqu'un qui a des qualités humaines
Ouais,
à part.
d'accord.
Et on parlait de Terry Venables, qui avait ce lien avec ses joueurs. Et ben Unai Emery, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il les fédère, mais il fait plus que les fédérer. Il y a une vraie union sacrée. Et bonne chance à eux, parce que c'est un bonheur de voir cette équipe jouer. Et c'est un bonheur de voir ce grand club, car c'est un très grand club anglais, Aston Villa, de nouveau figurer au premier rôle, ce qui n'avait pas été le cas bah, depuis les années 90, quand c'était Dwight York hein, qui était à la
Ah
tête
ouais.
de l'équipe des Villans. Donc ça fait plaisir à voir et bravo Unai.
Est-ce que en Angleterre, on revoit un petit peu sa copie aussi sur Unai Emery? Tu l'as dit, très critiqué en France, moqué aussi pour d'autres choses que ses compétences
Oui,
footballistiques, notamment son accent.
son accent, ouais.
Est-ce que l'Angleterre, qui aime tant critiquer, est en train de manger sa feuille et de reconnaître quand même les mérites d'un sacré entraîneur?
Oui.
Ok.
En un mot, oui, les gens se rendent compte que peut-être ils ont été un petit peu vite en besogne, que le fait qu'on se moquait de lui parce qu'il prononce pas ses V correctement, il dit B à la place, good evening, c'était devenu une espèce de catchphrase un peu ridicule et stéréotype, en fait xénophobe, hein, soyons clairs. Les gens révisent leur copie, bien évidemment, se rendent compte que c'était pas nécessairement de sa faute si les choses avaient mal fini à Arsenal.
Ouais.
N'oublions pas que c'est quand même lui qui s'est chopé, parce qu'en fait, il a fait à Arsenal ce que quelques autres sont toujours en train d'essayer de faire à Manchester United,
Ouais, tout à fait. Prendre la
prendre la
succession.
succession d'Arsène Wenger. Et je pense qu'avec le recul du temps, on se dira. Bah, tout compte fait, c'était pas si nul que ça. Il faisait face à une situation très, très, très compliquée. Il l'avait affronté avec ses propres armes. Au début, ça avait plutôt bien marché. Moi, je
Ouais.
me souviens d'un match contre Fulham où Arsenal avait été brillant et les supporters chantaient We've got our Arsenal back, notre Arsenal est de retour. Ils avaient déchanté plus tard, mais il faut voir aussi l'effectif qu'il avait à sa
Ouais, c'est sûr.
disposition. Il y avait une mauvaise ambiance et bon, voilà, c'était juste. Il avait fait le boulot, il avait fait le ferryman, comme on dit en italien. Il était allé d'un endroit à un autre, ne pouvait pas aller plus loin. Mikel Arteta a bâti ce qu'il a bâti. Il le bâtit aussi sur le travail de Unai Emery, ne l'oublions pas.
Dernière petite question, parce que on a l'impression que tu nous parles d'un tube un petit peu récent, mais en fait, depuis que Unai Emery est arrivé, on est déjà quasiment à 50 matchs. On est sur une moyenne de deux points par match, qui est incroyable pour une équipe comme Aston
Oui.
Villa. Est-ce que il y a possibilité de voir plus haut, ou comme tu l'as dit, c'est par étapes et c'est d'abord potentiellement le top 4 avant peut-être d'avoir un Aston Villa qui s'installe durablement dans les hauteurs du classement?
Alors, ça c'est dérèglement dans les hauteurs du classement, je dirais dans le top 6,
Ok.
qui en Angleterre, c'est pas facile.
Ouais,
Oui,
bien sûr.
absolument. Absolument, parce qu'il y a de la stabilité au club. Les propriétaires l'ont soutenu et le soutiennent, et bien. Il y a une très très bonne ambiance. Alors évidemment, l'ambiance est toujours bonne quand tu gagnes. Bien sûr, un peu plus compliqué lorsque les défaites vont arriver, et elles arriveront à un moment ou à un autre. Et il y a surtout la ferveur à Birmingham autour de cette équipe, c'est assez incroyable. Donc tu te dis, ouais, ils peuvent viser ça. Ils peuvent viser exactement. Moi, je te dis, c'est l'exemple de Séville. Okay. Ce que Emery avait fait à Séville, qui était quand même assez remarquable, particulièrement en Europe, en Liga et aussi en Europe. Je pense qu'ils peuvent tout à fait viser ça. Il n'y a absolument aucune raison. Plus ça va aller, de toute façon, plus ces propriétaires auront envie de soutenir cet entraîneur qui fait un tel boulot. À côté de ça, il y a évidemment une compétition, une concurrence. Bon, c'est la Première Ligue. Encore une fois, n'oublions pas que Manchester United, ils ne sont pas complètement hors course.
Ouais, ouais.
Je ne pense pas qu'Alessandro Garnacho marquera des buts comme ça tous les week-ends.
Ah oui, on n'en a pas parlé, mais celui-ci, on vous le conseille.
Oui, mais on n'a pas besoin d'en parler, on le regarde. Bah, hein. Ouais, on le regarde et on le regarde encore et on le regarde encore. Mais donc, mais Aston Villa, si tu veux, quand ils sont, ils ne donnent pas du tout l'impression d'avoir volé leur place ou d'être là par défaut.
Ouais.
S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont tout simplement gagné autant de matchs que Manchester City, voilà, et qu'Arsenal, 9, si je ne m'abuse, qu'ils n'ont perdu qu'une seule rencontre, que chez eux, ils sont quasiment injouables, qu'à l'extérieur, ça se passe plutôt bien, voire très très bien, qu'il y a, alors, bien évidemment, comme dans tous ces clubs qui montent, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il y avait tout d'un coup des blessures qui seraient... ils ont déjà dû avoir ça. Là. Quand ils ont perdu Tyrone Mings, tout le monde se disait « Ah, c'est la catastrophe, etc. C'est l'âme de l'équipe, le capitaine, tout ce qu'on voudra. » Et puis non, en fait, tu te rends compte que non, ils y arrivent, ils continuent. Et il y a des solutions. Et vu la façon dont ils arrivent à dynamiser cette équipe, la façon dont ils arrivent à tirer autant du potentiel de ces joueurs, tu te dis « Il est là pour la durée. Il est dans un club à sa mesure. » On n'attend pas trop de lui. En fait, il est maintenant dans la surperformance.
Ouais. Okay.
Quand il était au PSG, il n'a pas été dans la surperformance. Il a en fait été performant. Il a été au niveau du PSG. Arsenal, bon, c'est autre chose, on en a parlé. Mais à Villa, bon, il est dans son élément. C'est encore une fois, c'est Villa.
C'est une belle histoire anglaise que tu viens de nous raconter là, Philippe. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, très probablement.
Avec plaisir.
Et nous, on part en Italie. On termine ce Tour d'Europe avec l'Italie, Guillaume Maillard Pacini, qui, je crois, devinait un calendrier de l'Avent derrière lui, alors que nous ne sommes pas encore le 1er décembre. Guillaume, c'est une faute de goût, sache-le. Comment ça va, Guillaume ?
Alors, écoute, Cyril, sache que ce calendrier est un cadeau pour ma compagne, que je l'ai ramené d'Italie. Donc voilà, c'est un présent en vue du mois de décembre qui arrive. Et écoute, ça va très bien. Victoire de la Coupe Davis.
Oui, c'est vrai. La Coupe Davis qui était en une de la Gazzetta ce lundi.
Ouais.
Plutôt que le choc Inter-Juventus, ça dit beaucoup de choses.
Ouais, en une des trois quotidiens sportifs, magnifique. Cyril, et aussi Bagnaia, champion du monde de MotoGP,
ouais.
Pour la deuxième fois consécutive. Donc, autant dire qu'en Italie, c'est un week-end perfecto.
Ouais, perfecto, mais on va commencer on va revenir après sur le choc prétendu, le derby d'Italia entre l'Inter et la Juve, qui a été quand même très très décevant, donc pas si perfecto que ça. Une petite image pour commencer peut-être, c'est évidemment le jeune prodige de l'AC Milan qui a fait ses débuts. Raconte-nous tout.
Écoute, qu'est-ce que tu faisais, toi, Cyril, à 15 ans et 260 jours?
Je venais probablement d'avoir mon brevet, si je ne dis pas de bêtises. voilà.
Écoute, Francesco Camarda, lui, il est rentré dans un match de Serie A avec l'AC Milan, 15 ans, 260 jours. C'est un record historique, évidemment, pour le club et pour le championnat. Écoute, Cyril, on en a parlé sur Eurosport.fr
Je vous conseille l'article de Guillaume
Massoud. On a eu des témoignages. C'est un vrai phénomène dont on parle beaucoup à Milan. Alors, il y a beaucoup de blessés. C'est pour ça qu'il a joué, Cyril, parce qu'il y avait, beaucoup de défections dans le secteur offensif. Mais voilà, c'était quand même un gros événement parce que voir un jeune de 15 ans démarrer en Serie A, tu le sais, c'est quand même un championnat où les anciens quand même ont plus de place que les jeunes. Et là, voilà, c'est probablement le début d'une belle histoire pour lui. Retenez bien ce nom, Camarda. On sait qu'il a marqué 500 buts dans les 5-6 dernières années. Il joue en Primavera du Milan, donc avec les moins 19, alors qu'il a 15 ans. Donc autant dire qu'il y a 3-4 ans d'écart avec ses coéquipiers. Donc en fait, c'est un jeune prodige qui a toujours évolué dans les catégories supérieures. Même en sélection italienne, il est en U17, pour te dire un peu. Donc il est vraiment en avance sur son temps. Et voilà, on a vu sa réaction quand il est rentré, le stade qui l'acclame, les chants. Il a joué 10 minutes, il n'a pas touché beaucoup de ballons, Cyril. Mais on a vu son émotion, on a vu ses larmes. Il a remercié le stade le lendemain. Donc Donc voilà, ce sera un nom probablement à retenir pour les prochaines éditions du Tour d'Europe. C'est peut-être que dans 3, 4, 10 ans, on fera Tour d'Europe et qu'on sera vieux. Peut-être qu'on parlera de Francesco Camarda.
Ça marche, Guillaume. Le rendez-vous est pris. Avant de parler du futur, on va parler du présent. Et on va débriefer ce choc tristoun, on va le qualifier comme ça, entre l'Inter Milan et la Juve. C'était le choc de la journée en Serie A. Ça nous laisse ce classement. Inter 32, Juventus 30, AC Milan 26, Naples 24. Et cette question, parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup depuis le début de saison ici en France, de la Juve, mais la Juve est-elle favorite pour le titre, finalement?
Alors, tout le monde en Italie aimerait dire que oui, sauf à la Juve. La Juve, par superstition, probablement, on dit non, nous, on joue les quatre premières places, on veut repartir en Ligue des Champions. Mais le fait est, tu l'as dit, le classement est là. La Juve hier, c'est l'Inter. Alors oui, choc tristounet, surtout à deuxième mi-temps, on a vu que les deux équipes vraiment n'avaient pas envie de se faire mal. Ouais. Elles ne voulaient pas avoir ce choc psychologique d'une éventuelle défaite. Donc, elles se sont dit, bon, un match nul, c'est très bien, elles seront parties en bonne amie, entre guillemets. Mais c'est vrai que la Juve, cette année, on sent quand même une équipe qui est soudée. On sent une équipe tirée. Alors certes, on va en parler d'Allegri, qui n'a pas le meilleur jeu d'Italie, c'est évident. Mais on a quand même une équipe qui a un état d'esprit. On a des leaders qui sont revenus en forme. Je pense notamment à Bremer, à Chiesa aussi, qui revient en forme. Vlahovic, qui a marqué hier. Même Austin, qui est pas mal dans ce rôle un peu de super sub. Donc, on a vraiment une équipe qui joue une fois par semaine, on le rappelle, Cyril, parce qu'il
n'y a pas d'Europe.
Elle exclut de toutes les compétitions européennes. Et oui, et ça, c'est une grosse donnée parce que la semaine prochaine, par exemple, cette semaine, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, l'Europa Conférence, la Juve, elle, va pouvoir se reposer et préparer son match du week-end. Ouais. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Mais c'est certain que la Juve, cette saison, par rapport aux deux, trois saisons précédentes, on a une Juve vraiment guerrière, conquérante. Et même si ce n'est pas la plus belle, même si ce n'est pas la plus forte, probablement, elle a vraiment envie d'aller au bout. Et hier, dans l'après-match, les joueurs l'ont dit. Ils ont dit, bah si, quand même, nous, on y croit. Voilà, même en allant en contre-courant des dirigeants, tu sens quand même que l'ambition cachée, on va dire, côté à la Juve, côté le club le plus titré d'Italie, c'est forcément de gagner le titre. Et ils sont largement en compétition pour le faire.
On a regardé un peu les résultats. Donc, tu l'as dit, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu cette Juve à ce niveau-là. On rappelle les classements historiques de la Juve. Il y a eu ce titre année Covid, et depuis quatrième et septième la saison passée. Tu nous dis qu'on a retrouvé une équipe solide, c'est uniquement comme ça qu'on peut la qualifier. En regardant les feuilles de match, on voit que c'est beaucoup de victoires par un petit but d'écart. C'est ça le Allegri Ball?
Bah, tu le connais, Allegri, il va pas se révolutionner, il va pas changer son jeu. C'est un jeu qui est très solide, c'est un jeu qui est très peut-être minimaliste. Il y a pas évidemment que ça contraste un peu du football moderne au jeu dont on a l'habitude avec ce jeu offensif, ce jeu vers l'avant, ces préceptes vraiment d'attaquer. Allegri, on le sait, c'est solide, c'est fiable. Mais la différence vraiment, c'est que cette année, on a l'impression, même si je dois t'avouer, Cyril, du côté des tifosi, bon, il s'est divisé. Ouais. Il y a une partie qui est contente parce que bon, la Juve est deuxième, donc elle joue quand même le titre. Et l'autre côté, quand même, en se disant, bon, on s'ennuie un peu quand même devant les matchs. Et si on pouvait ajouter la manière à l'art, voilà, ce serait quand même mieux. Mais en tout cas, Allegri, cette année, il n'a pas changé. Mais disons qu'on a des joueurs qui adhèrent à ce qu'il veut faire. Par exemple, je pense notamment à McKennie, qui est revenu de près, qui est dans un rôle de piston et qui s'adapte parfaitement, qui ne demande rien à personne et qui fait son job. Donc voilà, on a vraiment une espèce de noyau dur qui s'est dit, bon, de toute façon, Allegri est là. Il ne va pas bouger, il va rester jusqu'à la fin de la saison au moins. Donc, quitte à jouer avec Allegri, autant faire ce qu'il a envie de faire. Et vraiment, on a une équipe qui s'est un peu soudée autour des préceptes d'Allegri. Alors, c'est peut-être un peu ancien, un peu rétro, c'est des victoires 1-0. Mais le fait que pour le moment, ça marche. Hier, ça a tenu le choc face à l'Inter. Ils auraient même pu gagner, honnêtement. Le match nul était le score le plus logique. Ils ont mené au score en début de match sur le but de Vlahovic. Donc, voilà, on n'a pas l'équipe la plus belle, comme je te disais, mais on a une équipe quand même qui pourrait aller au bout si elle continue comme ça, en tout cas.
Est-ce que c'est le début de la renaissance ou faut pas s'enflammer trop vite? On se souvient qu'on a longtemps parlé entre nous des soucis financiers qu'a eu le club, toutes ces choses-là. Est-ce qu'un titre cette année pourrait relancer complètement la machine et se dire qu'on pourrait retrouver la Juve du milieu des années 2010 ou on en a encore très, 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 très loin?
Écoute, je pense que la première étape, comme ils le disent, pour le coup, c'est la C1. Ouais, c'est de retrouver la C1, c'est intégrer le top 4, ce serait déjà un premier pas. Ouais, de retrouver même les recettes. Hein, parce que tu sais, avec des champions, c'est 80, 90 millions d'euros dans les caisses. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, ce serait déjà un premier pas pour un peu ce que représente la Juve à l'international et en Italie. Mais en tout cas, on est quand même sur peut-être un début du renouveau. Alors, je ne suis pas certain, pour te dire la vérité, Cyril, que l'avenir s'inscrira avec Max Allegri. Il y a un nom quand même qui me revient en tête, c'est Igor Tudor. Vous le connaissez en France. Il a fait un bon boulot à Marseille et lui,
d'autant que Napoli a choisi Mazzarri plutôt que lui.
Exactement. Mais donc, je ne suis pas certain que le long terme, voire même le moyen terme, s'inscrit avec Max Allegri, parce qu'Allegri, honnêtement, c'est pas l'entraîneur qui te lancera forcément les jeunes, si ce n'est par défaut, ou c'est pas l'entraîneur avec qui tu peux t'inscrire sur le long terme. Tu l'as dit, la Juve arrive quasiment de 10 ans de titre quand même, hein. De 2010 à 2020, elle a gagné 10 coups d'étoile de suite, ce qui est un record en Italie, mais on a un club quand même qui, voilà, financièrement essaye de se stabiliser parce qu'elle était dans le rouge. Elle paye encore les conséquences des affaires judiciaires qu'elle a eues. Elle est encore empêtrée dans certaines affaires. Paul Pogba, quid de Paul Pogba? Qu'est-ce qu'on fait de Pogba? On attend sa suspension. Fagioli qui escompte actuellement sa suspension. Donc voilà, il y a encore quelques affaires, pour le coup, indépendantes de la Juve, Pogba et Fagioli. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a un chemin qui a été entamé, un nouveau parcours avec à sa tête, il faut le rappeler, Cristiano Giuntoli, qui est l'ancien directeur sportif du Napoli, champion d'Italie la saison dernière. Il est arrivé cet été. Donc voilà, on a quand même un nouveau board. On a une équipe qui se renouvelle un peu. Et je pense que la prochaine étape, certainement, ça sera de renouveler le staff. Et vraiment, on aura un nouveau parcours vertueux du côté de la Juve. Mais on peut dire en tout cas que c'est le début peut-être de quelque chose. Mais le début, pour moi, ce n'est pas forcément le titre. C'est de retrouver le top 4. Le titre, disons que ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, évidemment.
Dernier petit mot pour ceux qui nous écoutent. Adrien Rabiot dans cette équipe, c'est quoi? C'est qui?
Oui, c'est capitaine, Cyril. Alors, c'est pas le capitaine attitré, mais hier, par exemple, il a récupéré le brassard. Donc non, Adrien Rabiot, c'est un taulier, c'est un leader. Il a pris une épaisseur et une dimension à la Juve qu'on n'aurait pas soupçonné à son arrivée libre du PSG. La seule inconnue pour l'instant, Cyril, c'est son contrat.
Ouais, tout à fait.
Tu le sais, il a prolongé l'été dernier parce qu'il était en fin de contrat déjà l'été dernier. Il a prolongé d'un an, donc jusqu'à juin prochain. Je pense que son entourage attend de voir si la Juve se qualifiera en Ligue des Champions, notamment parce que pour un joueur de la dimension de Rabiot, c'est bien évidemment important. Mais en tout cas, sa mère et agent Véronique, on a parlé il y a 2-3 semaines dans le magazine de la Gazzetta Sport Week en disant. Pour l'instant, il n'y a pas de décision, mais Adrien est très heureux à la Juve. Et vraiment, il l'est vraiment. Il est vraiment heureux à Turin, il est heureux à la Juve. La Juve est heureux de Rabiot. Et vraiment, c'est vraiment le patron. Enfin, c'est l'un des patrons de cette équipe.
Okay.
Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément mangé. Et tu le vois en équipe de France.
Ouais, ouais.
Alors, Rabiot, pour le coup, même en équipe de France, aujourd'hui, il est titulaire. Ça reste un des titulaires de Didier Deschamps. Donc vraiment, il a pris une dimension assez exceptionnelle.
Eh ben merci beaucoup Guillaume pour ce point italien. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
Hey marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.